France Inter, franceinter.com.
Jamais depuis le temps d'Alexandre, il n'y eut un tel pour faire la guerre. Jean Cuvelier, La vie de Bertrand du Guesclin, 1385. Mille ans d'histoire. Le 9 mai 1429, le lendemain du jour où elle prenait Orléans, Jeanne d'Arc chargeait un de ses compagnons d'armes d'envoyer un anneau d'or à la veuve d'un homme mort 50 ans plus tôt, Bertrand du Guesclin. Par ce cadeau, elle voulait rendre hommage à celui qui fut avec elle une des deux figures les plus célèbres de la guerre de 100 ans. Né en 1320 à Bron, non loin de Saint-Brieuc, rien ne prédestinait pourtant du Guesclin à devenir un jour le chef des armées du roi de France. Issu d'une famille de la petite noblesse bretonne, prodigieusement laid, ne sachant ni lire ni écrire, brutal et bagarreur, il n'était jusqu'à l'âge de 37 ans qu'un petit chef de bande harcelant les Anglais dans la forêt de Brocéliande. Totalement inconnu, jusqu'au jour où en 1337, sur la place des Lys à Rennes, du Guesclin participait à un tournoi organisé en l'honneur du mariage de Charles de Blois avec Jeanne de Penthièvre.
Messire, qui dois-je crier ? Vous n'avez ni parement ni armoirie qui vous fasse reconnaître.
Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore.
Mais qui est-il ?
Bertrand.
Par Madame la Comtesse de Penthièvre, reine du tournoi, nous proclamons Messire Bertrand du Guesclin, vainqueur de la joute.
Au prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'Anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous.
Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai.
Georges Binois, bonjour.
Bonjour.
Alors, la guerre, c'était la guerre de 100 ans à laquelle vous venez de consacrer un très beau livre publié chez Perrin, un livre très complet. Et une guerre pendant laquelle, donc, du Guesclin est devenu, avec Jeanne d'Arc, une des figures les plus célèbres de cette époque, qui est le chef même de l'armée du roi de France, un destin auquel rien ne le prédestinait.
Non, absolument pas, puisqu'il s'agit d'un fils aîné d'une petite famille noble des environs de Rennes et de Dinan, sans richesse, sans nom connu jusque-là, enfin vraiment quelqu'un qui, sans la guerre de 100 ans, n'aurait jamais été connu dans l'histoire, c'est certain.
Et puis, une brute un peu rustre, ne sachant ni lire ni écrire, et même, je crois, véritablement, disons qu'il faisait un peu la honte de ses parents. Alors, il va s'illustrer dans plusieurs guerres qui se déroulent à peu près en même temps, dans le cadre de la guerre de 100 ans. Il y a aussi la guerre de succession de Bretagne. C'est là qu'il va se faire connaître, car la Bretagne, depuis la mort de son duc Jean III, eh bien, elle avait deux prétendants, et là, les Français, enfin les Bretons eux-mêmes, vont se diviser. Hein, il y avait Jean de Montfort, qui était soutenu par les Anglais, qui occupait le duché, puis alors Charles de Blois, qui était le neveu du roi de France, Philippe VI, et c'est de ce côté-là que va se battre du Guesclin.
Oui, il fallait choisir son camp. Alors, d'une façon générale, d'une façon globale, les petits nobles de la basse Bretagne, bretonnants, se sont mis du côté de Montfort, donc des Anglais, tandis que les nobles de la partie orientale de la Bretagne se sont plutôt mis du côté de Charles de Blois. Il faut dire que ces gens-là avaient des possessions qui étaient à cheval sur la Bretagne et sur le royaume de France, et que donc, pour des raisons matérielles, eh bien, ils appuyaient plutôt le camp candidat pro-français dans cette affaire.
Ces gens-là, c'est-à-dire les gens du pays gallo, c'est-à-dire l'est de la Bretagne, qui parlaient le français, contrairement à ceux de l'ouest qui parlaient le breton. Alors, du Guesclin va donc se battre du côté, justement, de Charles de Blois, c'est-à-dire du côté du roi de France. Et alors, il va se battre pendant une dizaine d'années, un peu comme un chef de bande, hein, au milieu de la forêt de Brocéliande. Les Anglais l'appelaient le dog de Brocéliande.
Oui, le dog noir de Brocéliande, parce qu'il a la peau très bronzée également. Et Et oui, c'est un bagarreur type, chef de bande, oui, plus ou moins hors la loi, une espèce de, on dirait presque un Robin des Bois breton. Et ça va durer pendant une bonne dizaine d'années, cette affaire-là, des combats dans lesquels il mène des escarmouches, prend telle et telle forteresse, à coup surtout de ruses, hein, mais sans résultat vraiment spectaculaire.
Et puis avant d'être fait chevalier par Charles de Blois, justement, très tard, puisqu'il avait alors 37 ans, c'était en 1357.
Je ne suis qu'un chef de bande en forêt.
Ne soyez pas ingrat envers la forêt, Bertrand. Elle vous a donné sa force. Son rôle est fini, votre vraie vie commence. Vous allez être armé chevalier. Et à la fin de votre veillée d'armes, ce ne sera plus le chef de bande qui se relèvera, mais le capitaine qui commandera un jour les armées de Bretagne et de France.
Qu'il en soit ainsi. Dame du ciel, afin que vous soyez mienne dans les batailles, permettez-moi dans mon cri de guerre de joindre votre nom au mien, Notre-Dame qui éclate.
Notre-Dame Guesclin, c'était le cri de guerre de Bertrand du Guesclin. Vous le rappelez, Georges Minois, vous rappelez toutes les règles de la guerre, du temps de la guerre de 100 ans, et tous les chevaliers avaient un cri de guerre.
Oui, alors de l'autre côté, bien entendu, Notre-Dame, Saint-Denis, ça variait, ça pouvait varier suivant évidemment les saints qui étaient les plus honorés dans telle ou telle partie de la France. Mais on choisissait le cri de guerre qu'allaient crier les hommes à la bataille. Le jour même de la bataille, je dirais, en fonction de celui qui était choisi comme le chef, parce que ça peut paraître assez surprenant, mais c'est très souvent le jour même de la bataille qu'on choisit le chef, celui qui va commander sur le terrain.
Et ce sera souvent le cas de du Guesclin, chevalier donc assez tard, à l'âge de 37 ans, et au moment où se termine la première phase de la guerre de 100 ans, après un traité qui va faire perdre à la France à peu près le quart de son territoire, Georges Minois.
Oui, le fameux traité de Brétigny. La guerre de 100 ans, on le sait, pendant longtemps, a été une guerre absolument catastrophique pour les Français, avec plusieurs traités qui ont fait perdre au roi de France progressivement quasiment tout le territoire, ou tout au moins jusqu'aux deux tiers des territoires. Alors à Brétigny, en 1360, effectivement, Édouard III enlève à la France...
Le roi d'Angleterre. Oui,
Édouard III, le roi d'Angleterre, donc enlève à la France tout le quart sud-ouest du pays. Il possédait d'ailleurs par conquête également Calais à cette époque, après un épisode fameux, bien entendu. Alors c'est, et en plus, la France, à ce moment-là, est complètement exsangue, dévastée, ruinée.
Avec un roi prisonnier, Jean Le Bon, le successeur de Philippe VI.
Le roi n'est même plus là, le roi est à la Tour de Londres, oui. Il y a les désordres un petit peu partout. À Paris, c'est la Révolution, enfin la situation.
Étienne Marcel, oui.
Donc la situation à l'époque est absolument catastrophique.
Et où se prolonge, se déroule une autre guerre encore, toujours dans le cadre de la guerre de 100 ans, mais alors que la paix est signée avec l'Angleterre, il y a une guerre qui se déroule en Normandie, qui est ravagée par le roi de Navarre, Charles le Mauvais, une guerre dans laquelle, justement, du Guesclin va se distinguer.
Oui, alors ce Charles dit le Mauvais,
ses admirateurs qui l'appelaient comme ça,
c'est certain,
doute.
Il n'était sans doute pas plus mauvais que les autres, mais il était donc roi de Navarre et il était prétendant, et il avait des droits sur le royaume de France également. Il y avait trois prétendants, il y avait donc le Valois, il y avait le roi d'Angleterre, Édouard III, et puis il y avait ce Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui était petit-fils d'un roi de France par l'intermédiaire de sa mère. Et ce personnage avait des territoires très étendus en Normandie, notamment dans le Cotentin et en Basse-Normandie. Et donc une des tâches de du Guesclin va consister à essayer de le déloger de ses territoires normands.
Et c'est contre lui d'ailleurs que du Guesclin va remporter sa première grande bataille, celle qui va le faire connaître au-delà des limites de la Bretagne, qui est la bataille de Cocherel. C'est cette bataille qui fait sa renommée, c'est cette bataille aussi qui le fait ou qui lui permet de devenir très proche du roi de France, qui est devenu Charles V.
Oui, parce que bon, le roi Jean II venait tout juste de mourir, le roi prisonnier, et c'est donc Charles V, nouveau roi, qui entreprend de reconquérir cette Normandie. Alors à Cocherel, effectivement, du Guesclin a été choisi par les autres personnages importants comme le plus capable, le plus à même de diriger les troupes, et il remporte là une victoire remarquable avec des effectifs, je dirais, relativement limité, c'est vrai, mais c'est une victoire assez, assez éclatante et dans laquelle du Guesclin fait preuve de certains dons tactiques assez exceptionnels.
Et donc se faire marquer par Charles V, par le nouveau roi, auprès de quel, dites-vous, Georges Minois, il va jouer le même rôle que Saint-Éloi auprès de Dagobert, que Sully auprès d'Henri IV, que Richelieu auprès de Louis XIII. C'est assez extraordinaire, brusquement, la confiance que Charles V, les deux hommes étant totalement à l'opposé l'un de l'autre, n'ayant pas eu tout le même caractère ni le même mode de vie, ils vont être très proches l'un de l'autre.
Oui, très proches, tout en étant effectivement complémentaires. Ils sont surtout complémentaires. Du Guesclin, bon, c'est un petit peu la brute analphabète qu'on a évoquée tout de suite. Ça va donc être l'épée du roi. Du Guesclin admire dans ce roi la sagesse de Charles V, Charles le Sage, sa culture, tout ce que Du Guesclin n'a pas, et vice-versa, le roi qui physiquement est faible, Charles V ne pouvait pas se battre, hein, il avait la difficulté à soulever une épée. Donc Charles V, il lui faut un personnage, un guerrier, mais en même temps un guerrier qui ne soit pas quelqu'un de la grande noblesse, qui peut toujours être dangereux, bien entendu. Alors Du Guesclin, c'est donc le personnage idéal pour lui. C'est le bras fidèle, qui n'a pas de prétention politique, auquel on va donc pouvoir confier toutes les tâches guerrières.
Alors parmi ces tâches guerrières, il y en a une qui était très importante, c'est que la France, malgré la trêve provisoire conclue avec les Anglais, était, avec la Normandie, ravagée par Charles le Mauvais. Il y avait aussi le soulèvement d'Étienne Marcel. Et il y avait aussi, alors, ravageant toute la France, ce qu'on appelait les grandes compagnies. C'était quoi les grandes compagnies, Georges Minois ?
Alors, les grandes compagnies, ce sont des troupes de mercenaires. Parce qu'une des innovations de la guerre de Cent Ans, en tout cas pendant la guerre de Cent Ans, les rois de France ont de plus en plus recours à des troupes soldées, à des mercenaires, parce que les armées féodales traditionnelles devenaient un petit peu désuètes. Donc on a affaire, on recrute des troupes de mercenaires qui obéissent chacune à un chef de bande. Le problème, c'est que évidemment, lorsqu'on signe un traité, ces mercenaires se retrouvent en chômage. Et comme ils n'ont pas d'autre occupation que de faire la guerre, comme ils ne savent pas faire autre chose, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se mettent à vivre sur le terrain, à piller, saccager, alors comme de véritables nuées de sauterelles, je dirais, hein, à travers tout le royaume. Alors là, après le traité de Brétigny, notamment, voilà des milliers de gens, de semi-brigands qui se retrouvent sans emploi et dont il va falloir essayer de se débarrasser.
Et c'est ce que Charles V demande à Du Guesclin.
Je suis venu à vous de par le roi qui tient la France, pour vous emmener sur les païens, une sainte entreprise qui nous vaudra l'absolution de nos péchés. C'est en Espagne que je veux vous mener. Vous serez bien payé. Je vous ferai délivrer par le roi de France 100 000 florins d'or.
Dis-nous, Guesclin, que veut ton roi de France? Nous faire suer Dieu sait quel soir? Nous mener noyer comme chien galeux?
Les chiens galeux, le roi ne les noie pas. Il les fait pendre. Et si vos hommes restent en ce pays, leur gorge pourrait bien apprendre ce que pèse leur cul.
Je ne sais pas, Georges Minois, si Du Guesclin parlait comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film. Il avait un langage assez grossier, dit-on.
Oui, probablement. On ne sait pas, évidemment, quelles expressions il utilisait. Tout ce qu'on connaît, enfin, l'essentiel de ce qu'on connaît de lui vient du poème de Cuvelier, cet énorme poème de 25 000 vers qui raconte sa vie. Mais, évidemment, on n'a pas de certitude absolue sur la façon dont s'exprimait le Breton.
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il part en Espagne, à la fois pour éloigner ses grandes compagnies, dont vous parliez à l'instant, mais aussi pour participer à une autre guerre qui, elle aussi, se greffe un peu sur la guerre de Cent Ans, sur la guerre franco-anglaise, Georges Minois.
Oui, alors en fait, la guerre de Cent Ans, on le voit, est en train de s'étendre un petit peu partout autour du territoire français. Alors en Espagne, effectivement, en Castille, il y a aussi là une affaire d'affrontement de deux prétendants. Il y a Pierre le Cruel, roi de Castille, le roi légitime, et puis il y a son demi-frère, bâtard, Henri de Trastamare, qui voudrait bien le détrôner. Et ben voilà une bonne occasion justement d'employer, de trouver du travail pour les mercenaires. Mmh. Qu'ils aillent aider Henri de Trastamare à renverser Pierre le Cruel.
Pour le compte du roi de France.
Pour le compte du roi de France, qui permettra donc d'avoir au sud une Castille alliée de la France, qui était très important parce que la flotte castillane était l'une des plus importantes de l'époque. Et contre les Anglais, c'était un auxiliaire non négligeable.
Alors là, du Guesclin va se distinguer pendant 5 ans, il va même être fait prisonnier. On va demander pour lui d'ailleurs, ou plutôt je crois que c'est lui qui va la fixer, une rançon. Vous en parlez longuement, Georges Minois, le système des rançons qui peut nous surprendre aujourd'hui, parce que, vous le rappelez, au fond, les chevaliers se faisaient la guerre moins pour tuer l'adversaire que pour capturer des gens dont ils pouvaient tirer une rançon.
Oui, alors... ceux qui se faisaient tuer, évidemment, bon, c'est la piétaille, des gens dont on ne peut rien tirer. Mais entre chevaliers, ce qui est intéressant, c'est de se faire prisonnier, bien entendu. Parce que là, suivant le rang de la personne qui est prise, on exige pour sa mise en liberté une somme qui peut être considérable. Évidemment, ça varie suivant le rang de cette personne. Je disais, alors, du Guesclin, par exemple, après la bataille de Nájera, là, il va être libéré contre une rançon qu'on estime être équivalent à 460 kilos d'or fin d'aujourd'hui. Quand on prend le roi de France, évidemment, alors là, ça a été 5 tonnes d'or pour Jean II. Donc ça représente des sommes colossales et qui peuvent même, le résultat, c'est même quelquefois de ruiner complètement une famille pour le paiement d'une rançon, dont le paiement qui peut d'ailleurs s'étendre sur des dizaines d'années quelquefois. On sait que Charles d'Orléans est resté en Angleterre 25 ans prisonnier.
Et dont le montant variait donc en fonction, vous l'avez dit, de la renommée du chevalier, si bien que du Guesclin, quand il a été fait prisonnier en 1367 par le prince noir à Nájera, eh bien a fixé lui-même sa rançon.
Messire, le prince noir.
Or ça, messire Bertrand, comment allez-vous?
Cela n'alla jamais mieux, monseigneur.
Je suis le plus honoré chevalier du monde. On dit dans le royaume de France et ailleurs que vous me redoutez tant que vous n'osez me mettre en rançon.
Voir, messire Bertrand, pensez-vous que nous vous redoutions pour votre chevalerie? Fixez vous-même votre rançon. Fût-ce un fétu de paille, je m'en contenterai.
N'ayez crainte, monseigneur. Je ne me taxerai point trop bas. De pauvre chevalier que je suis, je m'estime à 100 000 florins d'or.
Je vous aurais tenu quitte pour le quart. Le roi de France m'avancera cette offre. Et j'ose me vanter que si je ne trouvais auprès de lui aucun secours, une fille de France qui a son rouet userait ses doigts jusqu'à l'os pour gagner ma finance et m'acheter hors de vos mains.
Je ne veux croire pour vous.
Extraordinaire l'orgueil de du Guesclin, Georges Minois, fixant sa rançon
à un prix
absolument astronomique. Ça, c'est vrai, cette histoire.
Ben, apparemment, oui. Tous les chroniqueurs s'accordent là-dessus. Alors, bon, d'un côté, évidemment, on peut admirer le geste. D'un autre, bien sûr, bon, ils chargent. Ce sont les Français qui vont payer. Hein, et du Guesclin déclare ils seront trop heureux de payer pour ma libération. Bon, c'est quand même une certaine arrogance.
C'est un trait du personnage. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Puis une arrogance malgré des défaites, parce que beaucoup d'historiens ont contesté au fond la réputation extraordinaire que l'on avait faite à du Guesclin, qui a peut-être remporté une bataille, Cocherel, mais qui en a perdu beaucoup. Il a été battu, fait prisonnier d'ailleurs à la bataille d'Auray en 1364. Il est battu à Nájera, justement. C'est un homme qui a connu presque plus de défaites que de victoires, Georges Minois.
Oui, alors évidemment, la carrière de du Guesclin est assez contrastée. Il a été fait 4 fois prisonnier au total dans sa carrière, ce qui n'empêche qu'on le considérait comme l'un des meilleurs combattants et chefs de guerre de l'époque. Il a été battu, vous venez de le rappeler, notamment en 2 grandes occasions. Alors il faut dire à sa décharge que dans ces batailles, il n'était pas le chef. Il était l'un des capitaines importants, mais ça n'était pas lui qui dirigeait véritablement l'armée. Bon, ceci dit, à sa décharge, il a remporté des batailles, mais bon, qui sont des batailles, je dirais, mineures. Bon, on a dit Cocherelle, il y a Pont-Vallin, il y a Chizé, il y a Montiel en Espagne.
Il y en a
Espagne.
Une même où il était très rusé, il déguisait, je ne sais plus à quelle prise de château, il avait déguisé ses soldats en charbonniers pour s'emparer du château.
Pour occuper le pont-levis et le bloquer, ça c'est dans les tout débuts de sa carrière. Bon, la ruse est effectivement l'une des caractéristiques de Duguesclin. C'est un homme qui excelle dans l'escarmouche. On dirait aujourd'hui dans la guerre de commando, si vous voulez. Ce serait certainement aujourd'hui quelqu'un qui excellerait dans le type de guerre de libération nationale, ce genre de choses.
Oui, un précurseur au fond de la guerre de guérilla. D'ailleurs, vous le rappelez aussi, il n'y a jamais eu de très très grandes batailles, sinon des batailles perdues, notamment par la France, à Crécy, à Azincourt, plus tard, ou à Poitiers. Mais il n'y a jamais eu de très grandes batailles. C'était une guerre d'escarmouches en général, cette guerre de Cent Ans.
Oui, une multitude d'escarmouches, de prises de châteaux, ce qui lui donne évidemment un aspect assez chaotique, assez confus. C'est dû aussi au fait que les armées, ça coûte cher, très très cher, et donc on ne peut pas se permettre, les rois ne peuvent pas se permettre d'enrôler des effectifs énormes, gigantesques. En général, une grande bataille, ça engage, disons, entre 7 et 10 000 hommes de chaque côté, vraiment la grande bataille. Et Duguesclin, en général, lui, c'est aux alentours d'un millier, voire moins, d'hommes qu'il a sous ses ordres.
Maître de l'escarmouche, maître de ce type de guerre de guérilla, très violent aussi. Une chose qui ternit un peu sa réputation et dont on a peu parlé après sa mort, parce que l'heure était à glorification de Duguesclin, c'est que c'était un personnage qui savait être très violent, Georges Minois.
Bien entendu. Alors ceci dit, dans le contexte de l'époque, ça ne semble pas avoir choqué outre mesure, mais il y a des épisodes, effectivement, où il a fait exécuter froidement une fois 120 prisonniers, une autre fois il en a fait égorger 300.
Pour ne pas avoir
à s'embarrasser de ses prisonniers, oui. Ceci dit, bon, le roi d'Angleterre, Henri V, est connu pour en avoir fait autant après la bataille d'Azincourt. Autrement dit, ce genre de choses, à l'époque, si vous voulez, ça s'inscrit dans un climat de brutalité généralisée. 100 ans de guerre, hein, ça laisse des marques tout de même dans les mentalités.
Et dans une guerre à la fin de la vie de Duguesclin, il était nommé en 1370 l'homme le plus puissant de France, puisque Charles V lui confiait la charge de connétable. C'était le 3 octobre 1370, au cours d'une cérémonie décrite par le chroniqueur Froissart et dont cet extrait de film reprend mot pour mot le dialogue qu'avait échangé ce jour-là Charles V et Bertrand Duguesclin.
Bertrand Duguesclin, nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys.
Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir. Mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs, vos frères, neveux. Comment oserais-je commander sur eux ?
Messire Bertrand, ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéisse. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courroucerait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt.
À Bertrand l'épée !
Livrez-lui l'épée !
L'épée à Bertrand ! Honneur à Bertrand !
Honneur à Bertrand !
C'est vrai, Georges Minois, qu'on n'avait jamais vu avant Bertrand Duguesclin, un jeune de petite noblesse chargé d'une telle responsabilité. Le connétable, c'était le chef, tout simplement, des armées du roi.
Oui, en général, la charge était confiée à un très grand noble. Alors, c'était une charge importante, bien entendu, et qui n'était pas sans danger. C'est pas une sinécure. Hein. Parmi les quatre prédécesseurs de Duguesclin, trois sont morts de mort violente à la bataille ou assassinés. Lorsque Duguesclin est appelé pour remplir cette charge, son prédécesseur, Moreau de Fienne, avait 64 ans, donc âge de se retirer, parce qu'en général, le connétable participait directement au combat, à l'action. Et encore une fois, si on choisit Duguesclin, bon, pour Charles V, c'est un bon calcul, parce qu'on vient de, on l'a rappelé, Duguesclin n'est absolument pas dangereux pour lui. Mmh. C'est un petit noble qui n'a aucune prétention politique.
Et puis, qui lui est resté fidèle, ce qui n'était pas forcément très, très courant à cette époque. Il va se battre avec cette charge pendant 10 ans, libérer ou plutôt reprendre aux Anglais à peu près le quart du territoire, de la France, c'est-à-dire au fond ce qu'avait perdu la France après le traité de Bétigny.
Oui, lorsque du Guesclin meurt en 1380, à peu près en même temps que le roi d'ailleurs, on peut dire que le territoire français est quasiment libéré. Il reste quelques fragments par-ci par-là, Calais ou Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne, mais l'essentiel a été effectivement libéré au cours de plusieurs campagnes dans les années 1370.
Et alors quand il meurt, le roi de France, Charles V, auquel il est resté fidèle, Charles V prend... Alors, à l'époque, on faisait la chose suivante, c'est-à-dire qu'on dispersait le corps en plusieurs endroits, mais le squelette de du Guesclin a été inhumé à Saint-Denis, c'est-à-dire dans la nécropole royale, ce qui était là encore exceptionnel, Georges Minois.
Oui, c'est quasiment la première fois qu'un personnage qui n'était pas un roi ait eu les honneurs de la basilique de Saint-Denis, effectivement. Le corps, c'est une des anecdotes de l'histoire posthume de du Guesclin. Le corps a été partagé en fait en quatre. Il y a le cœur qui est à Dinan, il y a les entrailles qui sont restées là-bas au puits. Et puis il y en a encore d'autres morceaux à Montferrand, mais le squelette effectivement a été mis à Saint-Denis, puis dispersé sous la Révolution.
Puis commence une légende, c'est le mythe du Guesclin qui commence, entretenu par des chroniqueurs. On citait Froissart, il y a aussi Jean Cuvelier qui comparait du Guesclin à Alexandre, le roi Arthur, le roi Pépin le Bref, Godefroy de Bouillon, Saladin. Extraordinaire cette légende. À quoi servait-elle? Pourquoi est-ce qu'on l'a tant entendue? Pourquoi du Guesclin plutôt que d'autres grands chefs de la guerre de Cent Ans?
L'une des raisons, semble-t-il, est que du Guesclin était en excellent terme avec les frères du roi, le duc d'Anjou, le duc d'Orléans, et ces personnages ont monté, on dirait aujourd'hui, une véritable campagne d'opinion, faisant construire des statues, organisant des cérémonies commémoratives en l'honneur de du Guesclin, qui avait été leur ami. Et c'est une des raisons, probablement, de son accession à ce statut.
Alors, célébré partout, sauf en Bretagne. Il se trouve, vous le rappelez à la fin d'une biographie que vous avez écrite il y a longtemps sur du Guesclin, que 600 ans après, on plastiquait encore les statues qu'il y avait de lui en Bretagne.
Oui, au point qu'on a quasiment renoncé maintenant à en placer d'autres.
Parce que pourquoi, justement?
Parce que lors d'un des derniers épisodes de sa vie, du Guesclin a été chargé par le roi de France d'occuper militairement la Bretagne, parce que le duc de Bretagne s'était mis du côté du roi d'Angleterre, donc il s'agissait de confisquer le fief, et il en a chargé du Guesclin, qui était d'ailleurs bien embarrassé dans cette opération, et certains Bretons ne lui ont jamais pardonné cette affaire.
Il le considérait un peu comme un traître.
Voilà.
Merci Georges Minois d'avoir rappelé sa vie. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres sur la guerre de Cent Ans en général. Donc un livre passionnant, La guerre de Cent Ans, naissance de deux nations, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Ainsi que, on peut lire aussi la biographie, mais c'était il y a un certain nombre d'années, que vous avez consacrée à du Guesclin chez Fayard en 1993. À lire également, ça vient de sortir aux éditions Talendier, Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée de Bernard Guénet. Vous avez pu entendre des extraits du film Du Guesclin de Bertrand de Latour. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Frédéric Potry. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, de Galatée jusqu'à Terminator, en passant par Frankenstein, une histoire des créatures artificielles.